Rebienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. On s'entretient aujourd'hui avec Mme Julie Saint-Arnaud-Drolet, porte-parole de M. Pierre Reid, directeur général d'Élections Québec. Mme Saint-Arnaud-Drolet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait très plaisir.
Donc, d'entrée de jeu, je vais aller d'une manière plus générale, en fait. À l'heure actuelle, on voit, si je peux me permettre, il y a eu un mini-scandale, là. C'est ça, je veux pas être alarmiste en prenant le mot « scandale », mais par rapport à la publicité de la Coalition Avenir Québec, qui, en pré-campagne, qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, où est-ce que je m'en viens avec ça? C'est qu'à l'heure actuelle, la prochaine élection provinciale s'en vient. On est en pré-campagne, et là, on n'est pas officiellement en campagne électorale, mais les partis commencent déjà à placer leurs pions sur le plan publicitaire. Donc, comment, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui permet d'encadrer les publicités des principaux partis pour une élection provinciale, surtout en contexte de pré-campagne, où est-ce que là, on est comme un peu flou, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est en campagne, on n'est pas en campagne, bref, c'est assez large, mais...
Oui, votre préambule est bon. Je comprends très bien la préoccupation. Il faut savoir qu'au Québec, on a vécu nos premières élections générales à date fixe en 2018. Donc, c'est les deuxièmes élections générales pour lesquelles on est capable de prédire la date puisqu'elle est vraiment inclue dans la loi. Et ça fait en sorte qu'il y a une prévisibilité donc de la période électorale qui peut amener les partis à commencer à faire de la publicité, à faire des dépenses à des fins électoralistes, mais avant le déclenchement des élections. Et en ce moment, vous l'avez bien mentionné, on n'est pas encore en période électorale. Elle sera déclenchée au plus tard le 29 août, possiblement avant également. Le gouvernement peut toujours déclencher des élections anticipées. Et dans ce contexte-là, où on vit nos deuxièmes élections à date fixe, quand on regarde ce qui est prévu dans la loi électorale pour encadrer les dépenses qui sont faites avant même que l'élection soit déclenchée, bien, on se rend compte que la loi électorale, elle n'en prévoit pas d'encadrement de ces dépenses préélectorales-là. C'est-à-dire que, comme toute dépense des partis politiques, ça doit être payé par les partis eux-mêmes à partir d'argent amassé conformément à la loi. C'est colligé dans des rapports, c'est vérifié par Élections Québec. Mais il n'y a pas de plafond, de limite de dépenses préélectorales à respecter par les différents partis, ce qui fait qu'un parti qui dispose de plus de moyens pourrait commencer plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant le déclenchement des élections, à faire campagne pour influencer les électeurs. À Élections Québec, c'est une préoccupation qu'on a depuis la tenue des premières élections générales à date fixe, donc qui était en 2018. Et donc, on est vraiment à l'affût pour voir à recommander une limite de dépenses préélectorales. Si ce qu'on observe sur le terrain nous amène à voir que là, il y a une inéquité entre les partis, que certains partis, justement, injectent vraiment beaucoup d'argent avant le début de la période électorale, ou encore une autre préoccupation de voir si, exemple, des groupes qui ne sont pas des partis politiques se mettent à investir encore plus d'argent que les partis eux-mêmes pour influencer le vote des électeurs avant que l'élection soit déclenchée. Donc, pour en arriver à faire des recommandations, bien, on est en train de faire une veille exhaustive pour colliger les dépenses qui sont observées, pour être capable de rendre compte, avoir des données probantes qui nous permettent de justifier finalement l'imposition d'une limite de dépenses préélectorales.
Justement, dans la glisser un mot vite fait, justement, le fait que les partis font pré-campagne très tôt, ça peut amener une certaine iniquité entre les partis. Donc, tu sais, on peut le voir, surtout vraiment le parti qui fait le plus de publicité, c'est celui de la Coalition Avenir Québec, là. Vraiment, qui fait campagne sur son bilan ou même via les pubs qui ont été faites récemment. Mais est-ce que vous avez reçu des plaintes de certains partis qui, eux, ne disposent pas d'un budget aussi grand que celui de la Coalition Avenir Québec par rapport à la publicité préélectorale, entre autres?
Tout au processus de plainte, ce sont des processus qui sont confidentiels à l'heure actuelle. Je n'ai pas de bilan global là, qui me permettrait, sans rentrer dans des détails particuliers d'une plainte ou d'une autre, de vous dire dans tel type de sujet, on a eu beaucoup de plaintes ou pas. Donc, je ne serais pas en mesure de vous faire ce bilan-là aujourd'hui. À la suite des élections, on fait par contre un récapitulatif là, des grands thèmes sur lesquels on a eu des plaintes. Alors, à ce moment-là, ce sera possible de vous aiguiller, là.
Parfait. Puis aussi, ce qu'on peut remarquer avec la publicité préélectorale, c'est que celle-ci est vraiment enclin à faire place à certains tiers, si je pourrais dire. On en a discuté un peu, c'est par rapport à un groupe de pression, celui de Québec Fier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, est-ce que c'est légal qu'un groupe de pression puisse intervenir via soit une publication ou via un parti politique, en ce qui a trait à cela, c'est le Parti conservateur du Québec?
Oui, donc effectivement, l'encadrement, on parle d'encadrement hein, préélectoral, donc avant même que les élections soient déclenchées, et il n'y a pas de restrictions, c'est-à-dire que des associations, des regroupements, des syndicats, des entreprises peuvent faire des dépenses à l'extérieur d'une période électorale pour influencer, favoriser un parti ou influencer le débat. Par contre, en période électorale, puis je pense que c'est intéressant de les regarder pour faire une tête sur la question des dépenses préélectorales, de regarder quelles sont les règles en période électorale, parce qu'elles sont uniques au Québec et elles sont très strictes. Donc, de façon très globale, là, la loi électorale, elle limite l'influence de l'argent dans un but d'équité, pour que les partis, les candidats disposent de moyens similaires pour se faire élire. Ça se traduit par deux grands éléments clés. Premièrement, les partis et les candidats sont soumis à une même limite de dépenses électorales. Et deuxièmement, pour ne pas porter atteinte à l'équilibre qui est recherché entre les partis et les candidats, bien, il y a uniquement les agents officiels de ces partis-là, de ces candidats-là, qui peuvent faire des dépenses électorales. Donc, ce que ça implique, ça, en d'autres mots, c'est que les citoyens, les entreprises, les associations, ils ne peuvent pas du tout injecter d'argent dans le débat politique au cours de la période électorale pour influencer le vote. Et pas du tout. Et c'est là où c'est vraiment une particularité du Québec. Parce que quand on regarde, ne serait-ce qu'ici au Canada, à l'échelle fédérale, les tiers, donc tous les citoyens ou les entreprises qui ne sont pas des partis, peuvent dépenser de l'argent au cours de la période électorale pour influencer les électeurs, alors qu'au Québec, c'est pas du tout. Et ça, donc, ça vient en quelque sorte limiter la liberté d'expression des tiers au cours d'une période électorale. Et cette limitation-là de la liberté d'expression, elle a été jugée constitutionnelle par les tribunaux parce qu'elle était de courte durée. Donc, une période électorale, c'est de 33 à 39 jours. Les tribunaux ont dit, OK, au cours de cette période-là, on juge raisonnable que vous empêchiez les tiers d'injecter de l'argent dans le débat électoral puisque c'est de courte durée. Et là, j'en reviens à l'encadrement du préélectoral. Donc, si on vient imposer une limite de dépenses préélectorales aux partis, mais qu'on n'impose aucune limite aux tiers, bien, l'équité qu'on tente de préserver en imposant cette limite-là préélectorale, elle peut être complètement brisée par le fait que des entreprises injectent encore plus d'argent que les partis eux-mêmes dans le débat électoral. Donc, inévitablement, la question de l'encadrement des dépenses préélectorales, oui, elle touche les partis politiques, mais elle touche aussi l'ensemble des organismes, des électeurs du Québec, parce qu'eux aussi devraient avoir une certaine limite pour respecter l'esprit de la loi. De ce que Oui?
Ah, bien, dans le fond, j'allais juste intervenir. Dans le fond, en limitant vraiment les dépenses des tiers, on vient, évidemment, comme l'avait dit, peut-être limiter la liberté d'expression, mais on vient empêcher un peu le phénomène qui arrive un peu aux États-Unis, où ce qu'on voit des milliards de dollars provenant de diverses entreprises, de divers lobbies qui sont là pour influencer l'opinion publique vers un candidat. C'est bien ça.
Exactement. Puis c'est pour ça que le Québec s'est doté de ces règles strictes-là. Donc, un groupe, vous faites référence à Québec Fier ou n'importe quel autre groupe, en ce moment, avant le déclenchement de la période électorale, ils peuvent faire des dépenses. La loi électorale n'encadre pas les dépenses qu'ils peuvent faire pour influencer les électeurs. Par contre, dès que l'élection va être déclenchée, ils n'ont le droit de dépenser absolument rien. Et ça permet déjà un premier encadrement. Je pense que ça répond en partie à votre question aussi. Là, qu'en est-il des groupes qui peuvent donner l'apparence de collaborer avec des partis? Bien, en période électorale, soyez assurés qu'ils n'auront pas la capacité d'intervenir. Et s'ils le font, Élection Québec a les assises légales pour intenter des poursuites pour s'assurer du respect de la loi. Maintenant, avant une période électorale, évidemment, il n'y a rien qui empêche des groupes, des associations ou des électeurs de dépenser des sous pour faire de la publicité, pour influencer les électeurs. Par contre, ils ne peuvent pas le faire pour le compte d'un parti. Donc, une organisation ne peut pas, parce qu'au Québec, il faut savoir que en matière de contribution politique, c'est uniquement les électeurs qui peuvent faire des contributions. Puis je dis contribution, je ne dis pas don, Parce qu'une contribution, ça peut être un don en argent, mais ça peut être aussi un service rendu. Ça peut être également un bien, de fournir des biens. Il y a juste les électeurs qui peuvent faire des contributions auprès des partis politiques. Ce qui fait qu'une entreprise, si elle se met à travailler pour le compte d'un parti, évidemment, si le parti l'engage et le paie, c'est une chose, mais si elle le fait gratuitement, on pourrait le voir comme une contribution sous la forme d'un service. Et à ce moment-là, une entreprise ne peut pas faire de contribution d'une quelconque façon et ce serait non conforme à la loi. Donc, c'est un peu les balises avec lesquelles on jongle pour encadrer les dépenses faites en période préélectorale.
Madame Relais, on avait fait mention tout à l'heure des élections en date fixe, puis pour emprunter les mots de M. Reid, l'avènement des élections à date fixe amène certains enjeux, certains problèmes. Puis là, on le voit avec l'élection actuelle, avec la pré-campagne. Je suis conscient aussi que les élections à date fixe, c'était voué, c'est dans un but, par exemple, de limiter probablement les gouvernements qui pourraient étendre leur mandat, par exemple. Mm-hmm. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on est capable d'émettre un bilan que si c'était à refaire, on le ferait autrement, ces élections à date fixe-là?
Non, Élections Québec n'a pas, en tout cas, fait d'études ou de recommandations à cet égard-là. Il y a quand même des avantages hein, en termes de planification, notamment des ressources pour organiser une élection. Donc, ça reste avantageux d'avoir une élection à date fixe. Donc, de notre côté, la préoccupation est davantage à savoir quel type d'encadrement serait approprié pour venir justement baliser la période préélectorale, pour respecter l'esprit de la loi, l'équité qui est recherchée. Donc, la réflexion, elle est plus à ce niveau-là qu'à se dire, ah ben peut-être que les élections à date fixe sont plus ou moins appropriées. On cherche plus à voir comment encadrer le préélectoral.
Puis j'imagine que l'un des défis d'une pré-campagne, c'est justement sa durée un peu floue, j'imagine?
Bien, effectivement, puis c'est un peu ce qu'on veut observer aussi. Quand on regarde, par exemple, en 2018, on voyait que les partis politiques ont commencé plus tôt qu'à l'habitude. Il y avait même certaines publicités qui étaient là dès le mois de mai 2018, de l'affichage aussi qui a débuté au mois de juin 2018. Donc, c'est de voir encore une fois pour cette deuxième élection, est-ce que ces mêmes éléments-là sont présents? Quelle somme d'argent semble injectée dans le débat de la part des partis, de la part des tiers? Ça m'amène à vous parler d'une recommandation qu'on a faite parce que savoir ce que les partis politiques vont faire comme dépenses de publicité avant l'élection, on a enrichi la reddition de compte qu'on demande aux partis politiques de nous faire à chaque année. Donc, on va être en mesure d'aller chercher les données qu'on veut pour chiffrer les dépenses qui auront été faites. Maintenant, on ne peut pas faire la même chose pour les tiers, là, donc les entreprises et les électeurs qui, eux, décideraient de dépenser avant le déclenchement des élections. Et à la suite des élections de 2018, c'est ce qu'on a demandé aux élus. On a demandé de modifier la loi électorale pour nous permettre d'avoir un registre des tiers qui voudraient faire des dépenses publicitaires pour influencer le vote avant l'élection. Et on le demandait justement pour être capable de chiffrer ce qui est injecté par les autres acteurs de la société, là, autres que les partis, et de voir est-ce que justement là, les tiers ne viennent pas injecter encore plus d'argent que les partis eux-mêmes? Est-ce que tout ça peut compromettre l'équité qui est recherchée? Et on n'a pas eu ce registre-là, donc on n'est pas en mesure d'exiger de reddition de compte de la part des tiers. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on effectue tout de même une veille des dépenses préélectorales, assurément des partis, mais aussi des tiers. Et on regarde aussi les ressources utilisées par le gouvernement, les parlementaires, dans un contexte préélectoral. Bien sûr, à défaut d'avoir une reddition de compte détaillée des tiers, on ne peut pas chiffrer de façon exacte, mais en même temps, on a quand même, de façon globale, une idée des coûts pour faire de la publicité. Donc, on est quand même capable d'estimer tout ça. Et ça ne passera donc pas sur notre radar. Là, on fait une veille active par rapport à ça.
Est-ce que vous savez pourquoi que les élus n'ont pas entériné votre recommandation que vous avez faite?
Non, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'il y a eu des modifications à la loi électorale qui ont été faites, notamment en décembre. Il y a plusieurs des recommandations qu'on faisait par rapport à d'autres thèmes là, qui ont été prises en compte dans la loi. Et il y a eu également des modifications à la loi pour l'élection à venir dans le contexte là, de la transmission de la COVID. Donc, les élus ont quand même, si je peux dire, ouvert la loi pour la moderniser à certains égards, mais je ne saurais dire pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'au registre des tiers. Là.
Puis, en ce qui a trait aux recommandations que vous aviez, que le DGEQ avait fait, la dernière, en fait, je pense que c'est en 2020, les dernières recommandations?
Oui, en 2000, ah oui, 2020 ou 2019, ça m'échappe, mais c'était vraiment donc à la suite de l'élection de 2018 et en nous basant sur nos observations de l'élection de 2018.
Puis, qu'en était-il de ces recommandations-là, de 2019-2020?
Oui, c'est 2020, vous avez raison. Je viens de retrouver, c'était en mars 2020. Mais ces recommandations, c'était ça. Donc, d'une part, nous, on a fait un bilan des observations qu'on avait faites. On a annoncé qu'on demanderait une reddition de compte enrichie aux partis politiques et aux candidats indépendants pour mieux documenter leurs dépenses préélectorales. On a demandé ce registre des tiers-là. Et donc, essentiellement, c'était ça. Maintenant, à la suite des élections de 2022, ben on va refaire un bilan pour rendre compte de nos observations, de ce qu'on aura vu dans notre veille, de la reddition de compte aussi plus détaillée que les partis politiques vont nous faire. Et ben il est tout à fait possible, effectivement, qu'on recommande un encadrement là, si la situation l'exige.
Puis peut-être juste en conclusion peut-être de cette entrevue-là, tantôt, vous avez brièvement abordé le sujet de la limitation des dépenses en campagne électorale. Donc, lorsque la campagne électorale va être officiellement commencée, les partis sont limités dans leurs dépenses faites pour la publicité, entre autres. Quel est ce montant d'argent-là, justement, que les partis ne peuvent pas dépasser?
C'est une bonne question. Là, j'ai pas les chiffres en tête parce qu'il y a deux limites différentes. C'est-à-dire que les partis, il y a des dépenses de partis, puis il y a des dépenses à l'échelle du candidat. Les dépenses à l'échelle du candidat sont vraiment la limite, elle est déterminée en fonction du nombre d'électeurs dans la circonscription. Donc, c'est un petit coefficient fois le nombre d'électeurs. Et la limite par rapport au parti, bien là, on va regarder le parti présente des candidats dans combien de circonscriptions, puis ça va être les électeurs de l'ensemble de ces circonscriptions-là qui vont venir fixer la limite. Ce qui fait qu'un parti, les partis qui présentent des candidats dans les 125 circonscriptions ont exactement la même limite de dépenses et les candidats au sein d'une même circonscription ont, eux, également exactement la même limite de dépenses.
Puis, à quelle hauteur, parce qu'on le sait, c'est connu que les partis ou même les candidats peuvent se faire rembourser des dépenses électorales, que ce soit relié à la publicité ou location de locaux ou peu importe. Comment ça fonctionne pour un candidat qui veut se faire rembourser des dépenses électorales?
C'est une belle question, effectivement. Donc, c'est pour avoir droit à 50% du remboursement de ses dépenses électorales, il faut soit être élu, si on est un candidat, les dépenses de candidat, il faut être élu ou obtenir au moins 15% des votes. Et pour un parti, il faut obtenir au moins 1% des votes à l'échelle du Québec. Puis, je trouve ça intéressant aussi de le nommer sous l'angle que les électeurs peuvent voir également que ça accorde une certaine valeur financière à leur vote. Parce qu'en votant pour un candidat, même s'il n'est pas élu, s'il obtient au moins 15% des votes, ça va lui permettre de voir ses dépenses électorales remboursées à hauteur de 50%. Même chose pour un parti, 1% des votes à l'échelle du Québec, ils ont droit à ce remboursement-là. Et c'est des choses importantes, donc, pour la vitalité financière, si vous voulez, des partis, des candidats qui sont concernés.
Madame Drolet, merci infiniment pour votre temps. On vous souhaite une bonne continuité dans votre travail, puisque vous allez avoir du pain sur la planche d'ici cet automne. Oui. Ça, c'est clair, net et précis. Puis merci d'avoir passé du temps avec nous.
Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci pour votre intérêt pour la question.